Merci, bonjour. Yann Cabrol, agence d'urbanisme de Toulouse. Vous avez parlé justement de ce transfert un petit peu avec toutes ces nouvelles agences de l'État et avec cette création-là. Est-ce qu'on n'a pas un risque de perte de démocratie finalement ou de pression du privé? Quelle est la sensibilité à la pression du privé? On sait que dès qu'on parle d'industrie pharmaco, on pense tout de suite aux pressions, aux études qui sont lancées par les labos, etc. Qu'est-ce qu'il en est là dans toutes ces agences qui finalement échappent à un système vraiment État dont on peut se dire qu'il y a une certaine forme de régulation interne aussi, voire politique. On n'est pas non plus dans du privé pur. Quelle sensibilité on a à ça?
Alors, on n'est effectivement pas dans du privé pur, on n'est pas du tout dans du privé, en fait, dans ce type d'environnement-là. On est néanmoins dans des institutions publiques qui ont affaire très directement au privé, dans le domaine du médicament, c'est le cas, dans le domaine de l'environnement, de l'alimentation, c'est également le cas de manière très récurrente, donc c'est bien la question qui se pose. C'est une question qui a été pas mal renouvelé, c'est-à-dire qu'au début, quand les agences ont été créées, l'idée, en particulier l'idée d'un certain nombre d'acteurs économiques, c'était de se dire on va avoir l'interlocuteur qu'on connaît, qu'on va connaître de mieux en mieux, et sur lequel, évidemment, on va éventuellement pouvoir influer de manière amicale, mais si possible efficace. D'ailleurs, les premières formes de financement de l'agence du médicament, parce que ça avait été envisagé aussi dans d'autres pays dans les mêmes termes au même moment, c'était de mettre à contribution l'industrie pharmaceutique qui devait payer en quelque sorte le budget de l'agence du médicament, ce qui convenait assez bien à cette philosophie de réduction des frontières de l'État, etc. Bon, assez vite, on s'est rendu compte que ça pouvait poser un certain nombre de problèmes, parce que les industriels avaient tendance à considérer que c'était leur agence, et de fait, c'est eux qui en avaient promu pour une partie de l'idée. Donc on est revenu à des formes plus classiques d'administration de la chose publique, avec des financements publics, évidemment, votés sur le budget de l'État, etc. Et puis les choses sont devenues encore plus problématiques au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça ne résolvait pas tellement les scandales, en fait. Il y a eu un certain nombre de scandales de manière un peu récurrente, hein. Dernière date peut-être c'était le Levothyrox, où on a des questions problématiques. Alors en général, on ne l'a pas fait encore pour le Levothyrox, en général, on change tout à chaque fois. On garde la même agence, on change le nom. Donc on a une réforme assez visible de l'agence, j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Donc voilà, il y a une exigence de réactivité, de responsiveness, comme disaient les Britanniques, par rapport à les situations critiques. Et une de ces réponses-là, ça a été de clarifier de manière très drastique les relations entre les acteurs publics et les acteurs privés, en faisant une loi sur les conflits d'intérêts. Donc en interdisant les conflits d'intérêts, en les rendant visibles, avec des déclarations de la part des individus concernés très très fortes, avec une obligation de publication de tous les types de financement par l'industrie. Même le café qui est donné à tel outil professionnel, vous pouvez le consulter si ça vous intéresse, c'est toujours très intéressant, mais vous pouvez le consulter aujourd'hui, voilà, en ce moment même, hein, tout ça est en ligne. Et donc vous pouvez faire une idée des possibilités de conflits d'intérêts, c'est supposé réduire les choses. Bon, très bien, donc un renforcement très net. Est-ce que ça va changer fondamentalement la nature? Ça engorge beaucoup les agences, elles s'en plaignent, parce que du coup on a des nouvelles procédures, qui ne sont plus des procédures scientifiques, qui ne sont plus des procédures d'établissement de la preuve, mais qui sont des procédures de vérification de l'absence de conflit d'intérêts. Ça prend beaucoup de temps de vérifier que pour les... Là on n'est plus dans des centaines d'experts, mais dans des milliers d'experts externes qui sont consultés. Donc il faut passer au peigne fin, les déclarations publiques d'intérêt et même en réalité l'ensemble des activités pour vérifier qu'il y a une congruence entre ce qu'ils déclarent et ce qui se pratique réellement, parce que sinon tout ça passe en contentieux et une décision peut être cassée. Donc sur 2 ans de travail, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé, peut être cassée sur cette base-là. Donc les conflits d'intérêts, ça traduit hein, ce que vous dites, c'est-à-dire il y a une forme de réaction. Bon, pour avoir un peu réfléchi à ces questions-là avec un certain nombre de juristes, pas seulement français d'ailleurs, je crois qu'on n'est pas dans... Il y a un problème. C'est que la question du conflit d'intérêts, elle s'intéresse principalement aux personnes. Elle s'intéresse aux individus et même aux experts. C'est bien, il faut le faire. Il faut éviter qu'on ait des experts qui soient évidemment compromis ou qui soient des chevilles actives d'intérêts qui ne sont pas des formes d'intérêt général. Donc il faut le faire. Enfin, on est loin d'avoir résolu le problème en ces termes-là. On est à peu près aveugle sur 2 choses qui sont pourtant assez importantes. On est à peu près complètement aveugle, les autorités publiques, dans ces activités de régulation, sont à peu près complètement aveugles sur la stratégie d'ensemble des entreprises dont on évalue les produits chimiques ou les produits pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'au moment où arrive une demande d'autorisation pour une molécule chimique intéressante ou pour un médicament intéressant, on va vérifier qu'il n'y a pas d'expert autour de la table qui est payé par l'industrie, c'est bien moins. En revanche, on ne sait absolument pas quelle est la stratégie d'influence. On imagine bien qu'il y a une stratégie qui a été construite sur plusieurs années. En réalité, on ne connaît rien du tout sur cette stratégie-là. On connaît beaucoup de choses sur le produit, mais on ne connaît rien sur la stratégie d'ensemble. Se prémunir contre les conflits d'intérêts, c'est regarder comment sont construits les intérêts, ça me paraît assez problématique. Peu de gens ont voulu appréhender les choses de cette manière-là. On sait pour l'instant, à mon avis, ça ne sera pas durable, retrancher derrière une question assez facile, si j'ose dire, abordée d'un point de vue juridique, mais celle des conflits d'intérêts, parce qu'on n'a pas les instruments juridiques pour aborder une question beaucoup plus vaste de la circonscription des intérêts en jeu au moment d'un débat. Et puis, on est également très aveugle, et je terminerai pour répondre à votre question là-dessus, sur ce qui se passe, malheureusement, très en amont. C'est-à-dire que tout ce travail scientifique, il est fait sur de la science. La science, c'est quoi? C'est des articles scientifiques qui sont publiés dans le monde revue. Et il faut bien dire qu'on n'est pas tous égaux du point de vue de notre capacité à produire des recherches scientifiques dans des domaines qui peuvent aboutir jusqu'à des grandes études qui sont publiées dans les meilleures revues. Dans le domaine de la santé, qui peut le faire? Pas beaucoup d'acteurs, quelques acteurs publics et beaucoup d'acteurs privés. Et donc on a, en fait, en amont même de la production scientifique, des manières de peser sur le débat qui vont être très indirectes et qui sont assez difficiles à contrôler avec la passoire des conflits d'intérêts, qui ne saisit pas une bonne partie du débat. Si on se concentre uniquement sur de l'information cachée, si j'ose dire, c'est-à-dire des études qui sont publiées dans les meilleures revues avec les critères les plus rigoureux, etc., on risque de se priver d'informations qui sont beaucoup moins pures du point de vue scientifique, mais qui pourraient être intéressantes de prendre en compte. Et aujourd'hui, on sent une évolution assez nette du point de vue même des critères scientifiques à prendre en compte. On se dit qu'il vaut mieux avoir une information exhaustive, y compris avec des signaux faibles et bien pourris du point de vue de leur qualité scientifique, mais qui disent peut-être quelque chose auquel il faut être vigilant, plutôt que d'avoir une information qui est complètement rigoureuse du point de vue de son établissement de la preuve, mais qui laisse en réalité passer une bonne partie de la réalité. Vous voyez qu'au-delà de la question des conflits d'intérêts, des impacts directs des acteurs privés sur ces agences-là, qui est, je crois, assez bien contrôlé maintenant, on a des formes d'influence qui sont beaucoup plus en amont et qui, elles, sont beaucoup plus difficiles vis-à-vis desquelles il est beaucoup plus difficile d'obliger.
Bonjour, Éric Lajarre, je travaille au CGET, au Commissariat Général à l'égalité des territoires. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur le rôle des pairs dans la régulation, et vous aviez cité la DGOS, et du coup ça me faisait penser, puisque je suis ancien directeur d'hôpital, donc ça m'a interpellé un petit peu. On peut en sortir la preuve, c'est possible, y revenir aussi, peut-être, enfin on ne sait pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que je réfléchissais à l'organisation, et je pensais à votre... Vous aviez l'air de supposer que le mode de régulation par les pairs était quand même pas très optimal. Enfin, je sais pas, peut-être c'est une partie de ma question. La deuxième partie de ma question, c'est que je regardais, du coup ça m'interrogeait sur la composition du cabinet aujourd'hui. La ministre est médecin, les directeurs de cabinet et directeurs d'hôpital, une directrice adjointe est NARC, spécialiste des questions sociales, l'autre est directeur d'hôpital... Voilà, donc du coup ça m'interroge aussi, est-ce que pour vous c'est un bon système de régulation? Puis du coup j'ai essayé de mettre ça en perspective, et je me suis dit que finalement peut-être le secteur de la santé est celui qui est le plus régulé par les pairs, peut-être de tous les ministères, parce qu'on a eu un agriculteur à la fonction publique, on a eu, et là c'est très rare les cas où les ministres ne soient pas médecins, je listais Doust, Kouchner, Mattei, Buzyn, etc., par Bachelot et Touraine. Oui, enfin, bon, Bachelot pharmacienne, voilà. Voilà, donc à part Marisol Touraine, voilà. Donc la question, c'est est-ce que c'est un bon... Pourquoi ce secteur-là de la santé est hyper régulé par les pairs, pardon, de cette... Et est-ce que pour vous, ça dénote quelque chose de négatif ou de positif?
Je ne vais pas le juger en termes c'est bien, c'est mal, ou c'est blanc, c'est noir. Ça renvoie à ce que je vous disais au tout début, quand je parlais de la régulation du système de santé, en disant que c'est un système qui, historiquement, est la dominante professionnelle. Et là, dans le domaine de la régulation ministérielle, c'est une caricature de ça. C'est-à-dire que ce sont des professionnels, soit des BUPH, c'est l'élite, de la profession médicale, plus rarement d'autres types de professionnels de santé, qui peuvent exercer ces fonctions-là, ou qui sont dans des postes à responsabilité, dans les cabinets, dans les directions centrales. Donc ça illustre cette dimension-là. Dans une certaine mesure, il y a une forme de captation ou capture, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quelque chose qui est de cette nature-là. Dans le cas de la DGOS, c'est encore plus spécifique, c'est-à-dire que, ce qu'on peut dire, après tout, les professionnels de santé ont aussi une vision un petit peu précise et un petit peu large du système, et tant que cette vision un petit peu large est préservée, il n'y a pas de problème. Si en plus elle est instruite, elle est précise, on peut éviter un certain nombre de dérapages et de problèmes qui peuvent se poser autrement. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une espèce de... d'accord tacite de la population, pour que ça se passe comme ça. Ce sont aussi des personnes qui, exercent une forme de responsabilité politique. Donc là, de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas de problème en tant que tel. À partir du moment où il y a une responsabilité publique qui est exercée, il y a une forme de domination, une forme de responsabilité du Parlement, il y a une forme de contrôle démocratique. Dans le cas de la DGOS, ce n'était pas ça que je voulais dire. C'est-à-dire que dans le cas de la DGOS, c'est quelque chose d'un peu plus spécifique, c'est que c'est une partie du système de santé, l'hôpital public, qui colonise, si on peut dire, l'administration centrale, qui est supposée l'évacuer, et donc du coup qui prend un poids qui me semble un petit peu, on dirait, exorbitant par rapport à la nécessité d'avoir une vision plus transversale du système de santé. C'était pas problématique tant que l'hôpital était légitimement au cœur du système de santé, parce que le type de problématique pathologique nécessitait... légitimer cette position centrale de l'hôpital. C'est devenu beaucoup plus problématique depuis un certain nombre d'années, décennies, pas tellement, où on a une transition épidémiologique vers les maladies chroniques, ou du coup le renforcement des acteurs qui interviennent dans la médecine ambulatoire qui devrait être beaucoup plus important comme aujourd'hui, où la santé publique devrait avoir un rôle également beaucoup moins ridicule qu'elle ne l'est aujourd'hui, et où on a l'essentiel des ressources en réalité, que ce soit des ressources humaines ou des ressources symboliques ou des ressources financières qui vont vers ce type d'activité-là qui crée un déséquilibre. Et c'est gênant que ce soit les acteurs qui, d'une certaine manière, sont directement en cause qui exercent en même temps la régulation. Et à mon avis, ce n'est pas un système qui doit. Je pense qu'on va aller vers une forme de questionnement de cette régulation-là. Ça peut passer soit en se disant il faut d'autres gens que des directeurs d'hôpitaux pour gérer l'hôpital, où ça peut passer, et je crois que c'est déjà un peu le cas, sur le questionnement sur ce qu'est un directeur d'hôpital. Je crois que cette réflexion est déjà engagée, y compris le changement de formation en fait, du directeur d'hôpitaux, ou même d'autres types de directeurs d'hôpitaux pour les prochaines décennies.
Oui, il y a une régulation dont vous n'avez pas parlé, parce que quand vous parlez de l'hôpital public en général. Et on sent, enfin moi je suis Elisabeth Belin, je ne me suis pas présentée, maire adjointe dans une ville, à Saint-Denis. Et sur les territoires, on commence à avoir une partition des actes entre le secteur public et le secteur privé qui se renforce de plus en plus avec des difficultés budgétaires évidemment pour les hôpitaux publics et particulièrement sur l'investissement, avec un retard à l'investissement lié, il me semble, à cette question de la partition des actes entre les acteurs rentables et les actes non rentables.
Alors, assez vite, ça va devenir technique si on parle de T2A, donc je ne vais pas trop rentrer dans ces débats-là. Simplement, ce que je vais dire, c'est que le régulateur, c'est le même. En termes de régulation, c'est le même. C'est l'ARS qui va être responsable de réguler ces équilibres entre le secteur privé et le secteur public hospitalier. Que les modalités de financement, c'est les mêmes. C'est la T2A, c'est-à-dire c'est un financement public et c'est des règles de financement public qui prévalent pour le secteur public comme pour le secteur privé. Après, il y a des formes de recouvrement, des formes de concurrence ou de division du travail, qui ne sont pas les mêmes obligations, mais avec des formes de convergence quand même, où les établissements privés ont aussi acquis des responsabilités qu'elles n'avaient pas, en matière d'accueil, en matière de, pas de recherche, hein, mais en matière d'urgence, par exemple, également. Donc on a un schéma d'ensemble qui est plutôt un schéma public dans lequel les acteurs privés doivent se couler. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des formes de concurrence entre le public et le privé, mais ce n'est pas toujours sur les bons droits qui s'en sont venus. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les choses un petit peu près, il y a certaines études du ministère de la Santé là-dessus, le public souvent s'en tire mieux. C'est-à-dire que c'est plutôt le public qui arrive à capter des parts de marché dont le privé avait la jouissance jusqu'alors. Hein. Alors ça renforce sa capacité temporaire à drainer des financements supplémentaires, ce qui le rend aussi assez âpre à la récupération des patients, si j'ose dire, parce que c'est son financement qui est en jeu, temporaire, parce que malheureusement, les règles, et je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est une théorie infernale, mais les règles de définition des tarifs de la T2A font qu'elles incitent beaucoup à capter chaque patient, parce que chaque patient a des compteurs petite enveloppe en quelque sorte, un petit jackpot. Mais ce petit jackpot, il est régulé chaque année, il est tempéré chaque année. Donc si vous récupérez un peu trop de patients l'année N, et que vous faites le même effort l'année N plus 1, on vous donnera un petit peu moins, donc vous n'aurez pas beaucoup avancé du point de vue de vos équilibres budgétaires. Hein. Donc voilà. Donc c'est des choses assez fines en réalité, assez complexes. Mais je ne dirais pas qu'on a un schéma où on a d'un côté le public, d'un autre côté le privé, parce que ce n'est pas vrai. En fait, on est dans un schéma qui est essentiellement public, essentiellement régulé par des règles, par des autres acteurs qui sont en public à la fin. Et cette forme de pseudo-concurrence, ou de quasi-concurrence, elle n'est pas toujours à l'avantage des acteurs privés non plus. Donc ça dépend des territoires, ça va dépendre souvent même de la capacité d'offre à une échelle très très locale entre l'établissement public et la clinique, leur capacité parfois aussi à se mettre d'accord. Ce n'est pas que des phénomènes de concurrence, hein, c'est des phénomènes de partage d'activités, parfois même de partage de structures sur certaines activités. Donc on a des choses un petit peu fines, mais voilà, je voudrais. Enfin, mon propos en tout cas, c'est de dire attention sur ce discours sur concurrence, privatisation, libéralisation de l'hôpital. Je crois qu'il ne recouvre pas ce qui se joue derrière cette régulation.
Caroline Callin, je suis déléguée départementale de Vaucluse de l'ARS PACA. En termes de frontières, vous n'avez pas parlé de la création des groupements hospitaliers de territoire, parce que la frontière de l'hôpital, quand même, elle va changer. Et si les directeurs d'hôpitaux, non, eux-mêmes, leur formation, etc., ne changent pas, en tout cas, leur fonction, elle va changer notablement. Enfin, si la réforme va jusqu'au bout et si elle n'est pas empêchée dans son application, il y a quand même un véritable changement, et les directeurs d'hôpitaux eux-mêmes le ressentent très bien, parce qu'ils savent bien qu'ils perdent une part de leur pouvoir dans un hôpital individuel, hein, au profit de la collectivité du GHT.
Peut-être un mot sur le GHT pour ceux qui ne sont pas très familiers. L'idée, c'est plutôt d'avoir on dirait une forme de réflexion à l'échelle d'un territoire où il y a plusieurs établissements hospitaliers qui sont amenés à se diviser un petit peu l'activité et surtout à l'organiser. Et donc du coup, ce qui est en jeu, c'est plus tellement l'hôpital, c'est plutôt le territoire. Et c'est autour du territoire que s'organise l'activité de soins et l'activité notamment hospitalière. Donc d'une certaine manière, c'est effectivement une ouverture de l'hôpital vers le territoire. Ça, de ce point de vue-là, ça va complètement dans le sens d'évolution assez importante et assez remarquable. C'est l'idée vraiment de la réforme. Elle est au tout début, donc c'est assez difficile de savoir ce qu'elle va devenir. On peut néanmoins essayer de faire un effort de prospective et de demander quels sont les risques, quels sont les avantages. Si tout fonctionne bien, on va avoir une forme d'ouverture des hôpitaux vers leur territoire, et c'est ça qui est visé. Néanmoins, ce sont des groupements hospitaliers de territoire, donc on reste dans le schéma de l'hôpital. Alors c'est bien de s'ouvrir sur les territoires, mais si c'est que l'hôpital qui le fait, qu'est-ce qui se passe ? Même si c'est un panneau notablement. Et deuxièmement, quels vont être localement les hôpitaux qui vont jouer ce jeu-là ? Est-ce qu'il y en a certains qui vont jouer le jeu parce qu'ils ont un intérêt, d'autres qui vont plutôt se dire le territoire, il va revenir à l'hôpital ? Et sur l'hôpital, on a ces questions-là, elles sont quasiment à date. Moi, j'ai regardé les choses d'un point de vue historique, c'est des choses qui existent quasiment depuis les années 60 dans le domaine de la psychiatrie. On ouvre sur les territoires, à l'époque, on appelait ça les secteurs, on appelait hospitalier. Est-ce qu'on exporte les logiques de l'hôpital sur les territoires ? C'est l'hôpital qui finit par garder son rôle d'IBM ou de Kodak des années 60 dans un périmètre encore élargi, ou est-ce qu'on a véritablement changé les règles ? Et là, je dirais que, et ça c'est aussi un des problèmes de beaucoup de politiques publiques, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. On n'a pas prévu véritablement d'évaluation et d'expérimentation de cette réforme-là. Et il va probablement se passer des choses qui vont être très différenciées selon les territoires. Moi, c'est les échos qui me reviennent d'un certain nombre de régions. Il y a des régions dans lesquelles, en général, il y a un gros CHU qui reste le gros CHU et qui organise le territoire pour rester le gros CHU. Parce que c'est ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Il y a d'autres régions où il n'y a pas de gros CHU, et à ce moment-là, c'est plutôt le territoire qui s'organise, et on a des dynamiques qui peuvent être plus vertueuses. Donc selon les types, je caricature, mais selon la morphologie des territoires, on va avoir des capacités d'ouverture, des exigences d'ouverture de l'hôpital vers son environnement qui risquent d'être probablement assez différenciées. Donc c'est pas seulement le GHT en tant que réforme importante qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment sa dynamique d'évolution, et du coup les facteurs sur lesquels on est susceptible de jouer pour aller vers le sens de mon projet.
Oui, monsieur. C'est Sergent, peut-être le troisième frontière. Je vais poser une question sur l'attente.
Rappelez-moi laquelle, parce que j'ai...
Pardon, Nicolas Morlon, ministère de l'Environnement. Je me présente d'abord, parce que c'est pour les caméras. Ah, non, ensuite,
c'est la
troisième frontière, c'était écosystème de santé, ouais, je crois. En fait, par rapport aux attentes citoyennes, est-ce qu'il n'y a pas déjà une attente citoyenne formulée en termes de régulation qui porte sur toutes les politiques qui ont un effet sur la santé? C'est-à-dire, je sais pas, il y a déjà des gens qui veulent des routes pour empêcher que la route traverse le village et donc de poser des problèmes, voilà. Et il y a le directive CERESO, sur les ICPE, il y a un certain nombre de choses. Et donc il y a déjà une attente formulée très forte et qui est peut-être, je dirais, plus importante que l'attente vis-à-vis du système de santé, parce que dans notre imaginaire collectif, un médecin, il a fait le serment d'Hippocrate, il veut soigner, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça. Alors le réguler, il y a une envie galeuse, hein, comme partout. Enfin, genre, mais il veut soigner, quoi. Enfin, c'est son objectif de vie. Donc peut-être il va l'accomplir, et il faut faire en sorte que les signaux économiques lui permettent de l'accomplir le mieux possible. Mais en revanche, sur un certain nombre d'autres politiques, on attend vraiment que le politique il fasse en sorte que ça induise un bon cadre de vie. Enfin, c'est le ministère du cadre de vie avant le ministère de l'Environnement, d'ailleurs, il s'appelait comme ça, je crois.
Alors vous avez raison, c'est une tendance assez lourde, hein, la montée de cette demande organisée. Il y a des relais, il y a des associations qui sont présentes, certains de mes collègues qui travaillent dessus, qui font des typologies d'associations, il y a celles qui sont autour d'une cause, il y a celles qui sont autour d'un territoire, par exemple, etc. Donc, il y a tout un environnement, si j'ose dire, de l'organisation de ces demandes, ça c'est très juste. C'est le premier point. Le deuxième point, à propos des questions de santé et d'environnement, c'est qu'en fait, c'est encore plus intéressant que ça. C'est que beaucoup de demandes citoyennes, et d'ailleurs pas seulement sur l'environnement, à un moment donné deviennent sanitaires, parce que c'est la santé qui permet de les légitimer comme demande politique. Donc il y a une propension à devenir des questions de santé un peu plus souvent qu'à leur tour. Hein, c'est-à-dire qu'on parle d'antenne relais, ça devient une question des effets nocifs, des ondes sur la santé. Alors que la question, c'est juste qu'il ne faut pas avoir une antenne relais en face de chez moi, c'est dégueulasse. Hein. Donc il y a sûrement des victimes, et après il faut aller les chercher, il y a des gens qui sont... Et je caricature un peu, mais pas tant que ça. Donc, c'est des choses que j'ai regardées à un moment donné d'assez près. On a eu l'association de victimes avant qu'il y ait des victimes, hein, par exemple, sur ces questions. C'est assez intéressant. Donc on a une propension, voilà. Donc il y a des acteurs qui sont organisés et qui sont présents, hein, qui portent cette demande-là. Il y a des acteurs qui portent d'autres demandes, mais qui vont faire en sorte que ça devienne une question de santé. Donc, du coup, ça finit par tomber dans le périmètre des politiques de santé. Et du coup, ça pose une question qui est de savoir, mais c'est quoi ce périmètre des politiques de santé? Et historiquement, c'était... À la fin du 19e siècle, le problème il se posait exactement dans les termes que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, il y a des brebis galeuses, il faut les éliminer, et puis ça rend plus à des médecins qu'on élimine des concurrents, donc on va y aller franco, et on crée des formes de régulation professionnelle. Ça a pris un peu de temps, on a créé l'Ordre des médecins sous Vichy, 1941, et c'est une régulation qui est professionnelle, qui est gérée par les professionnels. La complexité du système étant ce qu'elle est, on n'a pas pu en rester là. Mais aujourd'hui, du coup, se pose la question, est-ce que c'est simplement au niveau des professionnels? Est-ce que c'est un ministère de la santé, c'est l'activité que doit se faire cette régulation? Ou est-ce que c'est un niveau encore plus important, puisque c'est des questions d'environnement, c'est des questions d'industrie, c'est des questions d'alimentation, c'est des questions... Alors, on est mal à l'aise avec ça, parce qu'on a un ministère qui s'appelle le ministère de la santé, qui, en plus, un ministère assez faible par rapport aux autres. Seulement il y a des médecins, etc., c'est pas trop problématique, mais il est faible budgétairement, parce que l'essentiel du budget n'est pas au ministère de la Santé, il est à la Sécurité, il est à la CNAM. Donc ça ne pèse pas quand on est ministre de la Santé, on n'a pas directement les clés du camion. Si on ne pèse pas lourd dans les débats. Et puis, si jamais comme ministère, on donne aux médecins, mais je vais être souvent femme. Hein. Ben, c'est pas par hasard, c'est pas parce que les femmes elles sont excellentes dans le domaine de la santé, c'est parce qu'il y a des choses plus sérieuses pour les hommes. Donc c'est ça. Donc c'est une position qui est quand même assez difficile. Alors là aussi on essaie d'évoluer, mais c'est difficile. La dernière évolution en date, c'est d'avoir constitué, c'est sous la mandature, derrière la mandature, c'est de François Hollande, ça a été inventé, c'est d'inventer des conseils interministériels à la santé. C'est d'avoir une instance interministérielle qui est portée cette fois par le Premier ministre et qui aborde des questions de santé qui ont une vocation interministérielle. Donc c'est une innovation majeure, il y en a eu... Il y en a eu un sur la nutrition, je crois, et un sur les antibiotiques. Alors pour les antibiotiques, parce qu'il y a des enjeux enjeux de production de la filière agricole. Hein. C'est-à-dire que les plus gros consommateurs d'antibiotiques, c'est le niveau des enfants, c'est les animaux. Hein. Donc, c'est pas curatif, c'est un titre préventif. Donc ça pose évidemment des problèmes d'antibiorésistance, etc. Donc là, on ne pouvait pas rester dans le périmètre habituel des questions de santé. Donc c'est pour répondre à votre question. On est dans un périmètre qui, là encore, au niveau de la régulation, va dépasser très largement les questions de santé, parce que beaucoup de problématiques finissent par devenir des questions de santé. Et c'est de plus en plus le cas avec des acteurs qui sont peu familiarisés avec le monde de la santé. Ils doivent répondre à des questions de santé. Les agriculteurs, alors les simples, alors, le problème, c'est que plus de 60 ans pour nourrir la population, et on leur dit, attendez, alors, les agriculteurs, ils deviennent malades, qu'est-ce que c'est que ça? Non plus de glyphosate. Ok, on va faire, et c'est pas que le secteur agricole. Là, on parle beaucoup du lait, par exemple, la capitaliste. Là, on a une responsabilité sanitaire. C'était pas d'emblée inscrit sur le papier que le lait, c'est un secteur de la santé. Hein. C'est pas la culture de ces professionnels-là. Et il faut qu'ils l'intègrent probablement dans des proportions qui est tout à fait une nouvelle pause. Encore Lactalis, on est sur des produits, là on est sur des produits qui sont limites, hein, qui sont distribués en pharmacie, etc. Mais si vous prenez par exemple les questions de nutrition et leurs effets sur la santé, hein, biscuits chocolatés, producteurs de biscuits chocolatés ou de charcuterie, si vous voulez, leur problématique de santé, elle n'est pas évidente pour eux. Hein. Et pourtant, c'est bien ça qui est devant nous, et c'est ça qu'aujourd'hui discuté. Donc on est dans des problématiques qui débordent très très largement les questions traditionnelles de la santé, et ben, du coup on a discussion avec un certain nombre d'acteurs associatifs, etc., qui débordent aussi joyeusement et avec un certain intérêt les frontières un peu historiques, traditionnelles du système de santé. Donc vous voyez que ces questions-là se posent sur un périmètre qui est en train de s'élargir, où les frontières sont en train de se déplacer. On était sur un système de santé de façon historique, hôpital, médecin, santé publique, fin du 19e, début du 20e siècle, et on est dans un système où maintenant c'est industrie, agriculture, urbanisme, transport, etc. Avec un petit ministère de la santé.